puisqu'il est pile 18h et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Fatah et Hamas se réconcilient. L'autorité palestinienne prendra le contrôle total de la bande de Gaza d'ici le 1er décembre. Précision d'Étienne Monin dans un instant. Nous irons en Centrafrique avec Saber Gendoubi. Il a pu rencontrer l'ennemi numéro 1 du gouvernement, le général Ali Darassa. Son groupe armé, l'UPC, est accusé d'alimenter la guerre civile. Les partenaires sociaux reçus à l'Élysée pour évoquer les réformes à venir sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage, compte rendu d'Annabelle Grelier. Plus de voitures essence à Paris en 2030, c'est le nouvel objectif que se fixe Anne Hidalgo, au risque de faire encore plus de mécontents. Lise Verbeck nous dira surtout si ce projet est réaliste. Après une décennie de frictions, le Fatah et le Hamas palestinien tentent la réconciliation. Les négociations organisées au Caire ont abouti aujourd'hui à un accord. On n'en connaît pas encore tous les détails, mais on sait déjà que les deux mouvements rivaux ont fixé au 1er décembre l'échéance d'un transfert de pouvoir dans la bande de Gaza. Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait se rendre prochainement à Gaza. Étienne Monin, vous observez ce processus depuis Jérusalem. Est-ce qu'une page se tourne vraiment aujourd'hui ?
On est pour l'instant dans un accord intermédiaire sur des sujets techniques qui touchent à la gestion de l'enclave. Ils sont importants. D'après des fuites, on y parle du contrôle par la garde présidentielle des frontières, de la gestion des administrations par le gouvernement. Mais on est là dans la partie la plus consensuelle. Les sujets de confrontation seront abordés dans un deuxième temps, fin novembre, peu de temps avant la date couperet du 1er décembre. Et on parlera là de la gestion des armes, des élections, de la plateforme politique de l'OLP qui sert notamment de liens avec les pays donateurs. D'ores et déjà, il y a des divergences sur le sujet des armes et un manque de confiance. Ramallah a la conviction que le Hamas ne joue pas franc jeu, qu'il cherche à se débarrasser de la gestion courante pour garder le contrôle sécuritaire. Il y a eu un pas de fait aujourd'hui, mais ça n'est pas un pas décisif.
Étienne Monin, Jérusalem. Israël salue le début d'une nouvelle ère aux Nations Unies. Cette déclaration fait suite à l'annonce par les États-Unis de leur retrait de l'UNESCO. La décision de Washington s'appuie sur des motifs financiers, mais les États-Unis reprochent aussi à l'organisation d'avoir des préjugés anti-israéliens. L'actuelle directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, déplore, je cite, une perte pour le multiculturalisme. La France, actuellement en lice pour prendre la tête de l'organisation, dit regretter ce retrait américain. La police de New York ouvre une enquête sur le producteur Harvey Weinstein. Elle porte sur une agression sexuelle présumée remontant à 2004. Depuis la publication d'un article du New York Times le 5 octobre, les accusations visant le mania de Hollywood se multiplient, sont évoquées des faits de harcèlement, des agressions sexuelles et des viols. L'élection présidentielle a été une nouvelle fois repoussée en République démocratique du Congo. Selon l'accord conclu entre le pouvoir et l'opposition, des élections présidentielles, législatives et locales devaient se tenir avant la fin de l'année. Finalement, le scrutin ne se tiendra pas avant avril 2019. L'ONU s'inquiétait hier du retour d'un climat d'incertitude politique et de tension. La crise politique, sécuritaire et humanitaire risque de s'aggraver encore. Et face à un président Kabila décidé à se maintenir au pouvoir, la marge de manœuvre de l'opposition paraît bien étroite. Écoutez l'analyse de Christophe Rigaud du site africarabia.com qui s'est spécialisé sur l'actualité en RDC.
L'opposition est fragilisée, elle est divisée, elle est lassée en fait par ses atermoiements du pouvoir. Et puis surtout, Joseph Kabila a réussi des opérations de débauchage en fait dans les rangs de l'opposition qui ont considérablement affaibli cette opposition. Donc l'opposition face à cette impasse lance un appel à la rue. Donc là, c'est vrai que la solution, elle ne peut plus se débloquer par la politique parce qu'il y a déjà eu plusieurs rondes de négociations entre une partie de l'opposition minoritaire et puis le pouvoir, et que le dernier accord qui a été signé le 31 décembre 2016 n'a pas été respecté. Donc ça fait 3 ans de rallonge pour le président Kabila. C'est vrai que la population est usée, lassée, apeurée aussi, parce que la répression est excessivement forte depuis que le président Kabila cherche à se maintenir à tout prix au pouvoir. Toute manifestation est interdite, et quand elle peut avoir lieu, elle est très violemment réprimée. Les médias d'opposition sont muselés, certains opposants ont été condamnés à l'exil, ou sont sont en prison. Donc c'est vrai qu'il y a un verrouillage et un blackout sur le pays. Maintenant, Joseph Kabila joue avec le feu. Hein. La situation est de plus en plus explosive. Il y a une crise économique aussi qui fait que la population, quand l'opposition demande de faire des journées ville morte, elle peut tenir un jour, deux jours, mais ensuite il faut se nourrir. Donc tout ça c'est très compliqué. Et puis il y a une situation humanitaire et sécuritaire qui se dégrade avec des violences aux quatre coins de la République démocratique du Congo.
Christophe Rigaud d'AfriqueArabia.com répondait à Nabila Hamel. Le dossier de ce journal est consacré à la Centrafrique. Depuis 2013, le pays est en proie aux violences intercommunautaires. Le renversement de l'ancien président François Bozizé par les milices Séléka avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka. Les groupes armés continuent de s'affronter pour le pouvoir et pour le contrôle des ressources naturelles, tandis que plus d'un million de personnes ont fui les violences. Saber Gendoubi, notre envoyé spécial dans le pays, a voulu rencontrer celui que le gouvernement centrafricain et la communauté internationale accuse d'entretenir inlassablement la guerre civile. Ali Darassa, général de l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, issu de l'ex-Séléka, est l'ennemi numéro un du pays. Délogé en février de la ville de Bambari, dans le centre du pays, Ali Darassa s'est retranché au cœur de la Centrafrique, loin de tous, à Alindao. Et pour s'entretenir avec lui, Saber Gendoubi a parcouru 120 km au cœur de la brousse centrafricaine. Reportage.
Départ 9h de Bambari, 120 km et 11 heures de route nous attendent pour rejoindre Alindao. La route nationale 2 est en réalité une piste étroite et caoutchouteuse. Le chauffeur du petit 4x4 qui nous conduit slalom entre les crevasses, vigilance de chaque instant, avec un capitaine de l'Union pour la paix en Centrafrique, un groupe armé.
Oui, je suis Assambou Bali, le coordinateur politique de l'UPC. L'UPC, c'est un mouvement politico-militaire parmi les 14 groupes armés qui sont reconnus dans notre pays.
Sur une bonne partie du chemin, on traverse les checkpoints tenus par ces éléments armés.
C'est votre région, vous tenez la région?
Oui, nous on tient la région ici.
Les villageois saluent la voiture, certains paraissent pétrifiés sur place, d'autres partent se cacher.
Alors, qui sont-ils ces ennemis? Parce que vous faites, il y a quand même des combattants, des combats avec des conséquences.
Pour nous, ici, on combat avec les gens qui ressemblent comme les anti-Balaka. Donc pour nous, c'est des bandits seulement. Notre ennemi, c'est l'ennemi de la paix. C'est ça qui est notre ennemi.
Arrivé dans le village de Nzelete, à 20 km d'Alindao, longue pause, puis agitation. On change de voiture, un puissant pick-up Toyota surmonté d'une grosse mitrailleuse, un colonel et une quinzaine de jeunes soldats armés s'entassent dans le coffre du pick-up. C'est la garde personnelle du général. En fait, on apprend un peu tard que le groupe armé ne contrôle pas toute la route. Alors on démarre, il fait nuit noire, la voiture fonce, rebondit sur un chemin de plus en plus chaotique.
Ici, la route, c'est pas bon. Là.
Soudain, embourbage, patinage, on n'avance plus, tout le monde descend. Où sont les pelles? Pas de pelles. Les soldats creusent à la main, éclairés par la lumière des phares. Enfin arrivé à destination le lendemain, rencontre avec le général Ali Darassa, un colosse de 41 ans, ancien éleveur peul. Aujourd'hui, sa vie, c'est la guerre.
Le gouvernement a de la sécurité.
Parce que le gouvernement ne peut pas prendre la sécurité de la population civile.
Dans la famille, gouvernement, quand on a la population.
Parce que dans le gouvernement, chaque personne a sa famille, a son alliance.
Faka Amad ou anti-Balka?
Même les Fakas sont des anti-Balka.
Le général parle arabe, le Fulani, la langue des Peuls, et comprend à peine le français, le Baragouine, le Sango, la langue nationale en Centrafrique. Mais quand on lui demande, est-ce qu'un jour vous voyez la fin de la guerre? C'est en français qu'il répond, en souriant.
Pas encore.
Voilà, pas encore, dit-il. Autrement dit, Ali Darassa n'est pas prêt à déposer les armes, et pour cause, pour lui, comme pour ses hommes, entre le trafic de café, le contrôle des mines d'or et le racket, la guerre est avant tout une manne financière essentielle.
La deuxième phase des réformes sociales est lancée. Depuis ce matin, Emmanuel Macron reçoit les responsables des syndicats et du patronat à l'Élysée. Il s'agit cette fois d'aborder les thèmes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Mais pour l'instant, rien de nouveau n'a filtré sur le contenu des réformes. Ces entretiens ont donc surtout été l'occasion pour les partenaires sociaux de faire passer quelques messages au chef de l'État. Et pour les syndicats, pas question de repartir sur les mêmes bases que lors de la consultation sur la réforme du Code du travail, Annabelle Grelier.
Oui, à l'Élysée, aujourd'hui, il s'agit simplement d'un premier tour d'horizon des réformes à venir. Mais échaudés par la méthode sur le code du travail, les syndicats ont envoyé leur message. Jean-Claude Mailly, de Force ouvrière, réclame des négociations et pas seulement une concertation. Quand la CGT, qui défilera le 19 octobre contre les ordonnances, a donc logiquement demandé au président de revoir sa copie. Philippe Martinez.
L'épisode précédent ne nous a pas satisfaits, tant sur le fond que sur la forme. Et donc j'ai rappelé au président de la République que se voir, c'était bien, discuter, ça sert toujours, mais que nous n'avions pas des têtes d'alibi. Et si c'est une négociation, ça veut dire qu'on a un texte et qu'on discute d'un texte, que nous, on va apporter un texte et que notre texte doit être versé à la négociation. Mais si c'est juste pour nous voir une heure, sept fois dans le mois d'octobre ou novembre, et qu'à la fin, le texte, ce soit celui du gouvernement et qu'on le découvre deux heures avant vous, nous n'étions pas d'accord. Et donc, je souhaite et j'espère que le président de la République a entendu, il faut un texte, il faut des multilatérales si on veut véritablement discuter des projets qui sont sur la table.
Du côté du MEDEF, ce n'est pas Pierre Gattaz qui se plaindra de la méthode, mais sur la réforme à venir sur l'assurance chômage, il s'est dit un peu réservé sur la volonté du gouvernement de passer à une gestion tripartite avec un pilotage de l'État. Les rencontres des partenaires sociaux à l'Élysée se termineront demain, ce sera le tour de la CFDT. L'ensemble des partenaires sociaux seront ensuite le 19 et le 17 octobre reçus par le Premier ministre Édouard Philippe avant d'entamer à proprement parler les discussions avec Muriel Pénicaud.
Annabelle Grelier. Édouard Philippe cherche à rassurer les élus locaux. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui et demain des représentants des collectivités inquiètes pour leurs finances. Les régions sont particulièrement remontées. Elles ont quitté la table de la conférence des territoires, ce lieu de dialogue entre l'État et les collectivités. Les élus ne voient pas comment réaliser les économies supplémentaires exigées par l'exécutif. Il y a aussi des dossiers compliqués, comme celui du Grand Paris, avec l'éventuelle suppression de départements de la Petite Couronne. Bref, les sujets de crispation s'accumule et c'est une préoccupation pour Matignon qui a organisé aujourd'hui une réunion ministérielle sur le thème des collectivités. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Vous vous êtes intéressé aux maires ruraux et vous avez rencontré des élus en plein désarroi parce qu'ils se sentent complètement oubliés.
Oui, en tout premier lieu, ce qui leur pose problème, c'est qu'ils ont le sentiment d'un décalage entre le discours d'Emmanuel Macron et les actes. Michel Fournier est le maire des Voivres, une commune de quelques centaines d'habitants dans les Vosges.
Ce que l'on reproche au président, c'est que le discours qui avait été tenu, c'était un discours de confiance. C'est ces fautes de communication, ces fautes politiques font qu'aujourd'hui, où on était dans un climat d'un monde nouveau que l'on voulait construire ensemble, eh bien tous les élus de base ont été refroidis, tout simplement.
Oui, parce que cet été, Macron leur avait promis que ces réformes se feraient dans la concertation et finalement, il a confirmé la diminution des dépenses de fonctionnement, a décidé la baisse des emplois aidés, la suppression de la taxe d'habitation. Bref, des coups de bâton et aucune carotte à l'horizon. Et le problème, c'est que dans ces communes rurales, on se sent à mille lieues du monde très urbain et ultra connecté qu'incarne Emmanuel Macron. Jean-Paul Carteret est le maire de Lavoncourt dans la Haute-Saône.
Aujourd'hui, c'est là que sont les logements les moins chers, c'est là que viennent le paupérisme, hélas. Ma directrice d'école me disait, mais il n'y a plus de mixité, il n'y a plus que des gens dont les parents recherchent de l'emploi ou qui ont des petits salaires. C'est très grave, il y a une fracture terrible. La ruralité est en train de mourir comme ça, à petit feu. Plus de médecins, alors les services publics, même la préfecture, maintenant on ne peut plus se rendre à la préfecture. Il faut avoir Internet. Et bien moi, je peux vous apporter des témoignages des territoires. On donne des cours d'informatique dans ma commune depuis 25 ans. Cette année, sur 15 qui se sont inscrits, 6 n'ont jamais vu un ordinateur. Et on va leur demander d'envoyer par télétransmission ou de demander leur permis de conduire, leur carte grise, etc. par Internet. Mais c'est complètement impossible. On exclut des gens de la société. On les exclut.
Ce qui les gêne également, c'est qu'ils estiment avoir de moins en moins de moyens d'action en raison du fait qu'on transfère de plus en plus de compétences aux intercommunalités. Michel Fournier.
C'est d'une façon régulière. Prenons la compétence de l'eau. La loi, NOTRe, l'a mis à la compétence des intercommunalités d'une façon obligatoire. On vient de nous dire tout à l'heure, le ministre vient de nous indiquer qu'au niveau des permis de construire, il avait été question de nous enlever la potentialité de signer les permis de construire. Non, attendez, à un moment donné, ça sera les forêts, à un moment donné, ça sera etc., etc. Ce qui fait que, à terme, on se dit, mais qu'est-ce que l'on veut ? On veut, sans le dire, la disparition de la commune. Vous savez, le pouvoir, c'est quoi ? Le pouvoir, c'est de pouvoir exercer justement ce pouvoir. Quand vous n'en avez pas les moyens, il ne faut pas pleurer qu'il va ailleurs. Mais quand vous avez les moyens de le faire et que vous l'exercez d'une façon intelligente, on ne comprend pas pourquoi le retirer à celui qui l'exerce.
Voilà. À l'heure de la mondialisation à laquelle Emmanuel Macron veut adapter la France, les maires essaient de rappeler qu'il conviendrait de ne pas oublier la ruralité.
Stéphane Robert, la déception des salariés de General Electric Hydro Alstom après leur rendez-vous à Bercy. Il n'y a pas d'avancée, indique la CGT à l'issue d'un échange au ministère de l'économie. L'État se dit soucieux de la pérennité de la filière hydroélectrique, mais ça s'arrête là. Opposé au plan de licenciement qui menace 345 postes sur 800, les salariés ont voté aujourd'hui la fin de la grève et la levée du blocage du site grenoblois, mais ils promettent de nouvelles actions. Ça ne sera pas une interdiction, promet la mairie de Paris, mais l'objectif est clair, plus de véhicules à essence dans la capitale en 2030. La maire Anne Hidalgo avait déjà annoncé la fin du diesel pour 2024. Elle va donc encore plus loin en élargissant le dispositif aux voitures essence d'ici 12 ans. La mesure a été annoncée hier en réunion du comité de pilotage du plan climat de Paris. Est-ce que c'est une ambition réaliste, Lise Verbeck?
Alors à la mairie de Paris, on l'assure, interdire toutes les voitures diesel et essence dans la capitale en 2030, c'est un objectif ambitieux mais tout à fait atteignable pour Célia Bloel, adjointe en charge du climat.
Il y a des moyens aujourd'hui extrêmement importants pour accompagner cette révolution de la mobilité. On a des moyens sur transformer Paris et ses grandes places. On a des moyens sur des aides financières directes aux personnes qui lâchent leur voiture, aux taxis qui veulent aller vers une mobilité électrique, aux petits commerçants qui veulent transformer leurs véhicules. Et il y a cette question évidemment des parkings. La maire de Paris a souhaité que 6000 places de parking puissent être créées d'ici quelques années pour justement permettre ce switch de la voiture vers le transport en commun. C'est en train d'être fait et effectivement Paris contribue à cet effort.
Mais la mairie veut aussi miser sur la voiture électrique, mais les défis dans ce domaine restent nombreux. Les batteries sont peu autonomes, l'installation de bornes de recharge coûte cher. Cette interdiction peut, selon Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile, inciter certains automobilistes à se tourner vers l'électrique. Mais vu le prix d'un tel véhicule, ça ne sera pas le cas pour tout le monde.
Il y a un moment où il faudra probablement que la mairie de Paris mette un peu d'eau dans son vin, parce que ce sont des mesures qui sont effectivement très stigmatisantes pour les artisans ou pour les populations qui effectivement ne sont pas parisiens et viennent à Paris néanmoins et qui probablement auront besoin de continuer de rouler pendant longtemps avec des véhicules qui seront thermiques.
Analyse partagée par l'économiste Alexandre Delegue qui va plus loin. Cette mesure de la mairie de Paris reste une annonce politique. 2030, dit-il, c'est juste assez loin pour changer d'avis d'ici là, mais juste assez près pour légitimer d'autres mesures prises par la mairie comme la piétonnisation des voies sur berge.
Et le Conseil de Paris devrait débattre de ce projet aux alentours du 20 novembre. De quelle complicité Mohamed Merah a-t-il bénéficié pour commettre ces assassinats à Toulouse et Montauban en mars 2012? C'est ce que s'efforce de déterminer la cour d'assises de Paris. Hier, un psychiatre avait tenté d'expliquer combien l'environnement familial du tueur au scooter avait façonné sa personnalité asociale et violente. Aujourd'hui, retour sur les achats effectués par Mohamed Merah avec son frère Abdelkader en amont de ces actes terroristes. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
C'est une journée d'audience en demi-teinte, encore émaillée des incidents quotidiens entre les éclats de voix de l'avocat de la défense Éric Dupond-Moretti et les rappels à l'ordre du président de la Cour. Elle était pourtant a priori loin d'être anodine, cette journée destinée à retracer le parcours des frères Merah le 6 mars 2012, jour du vol du scooter et leurs achats dans un magasin de motos de Toulouse. « Je n'ai pas grand-chose à dire », commence l'ancien magasinier de YAM 31. « Oui, je connais Abdelkader Merah. Ce jour-là, il est venu avec son frère demander un devis pour des pièces détachées. Il avait eu un accident de moto. Plus troublante, la demande de Mohamed Merah chez un autre concessionnaire. La secrétaire commerciale s'en souvient bien. Il se renseignait avec insistance sur le système de tracking qui permet de localiser un véhicule et dont sont équipés tous les scooters T-Max, comme celui volé par Mohamed Merah. Mais là encore, la connexion avec Abdelkader Merah ne se fait pas. Même si ce dernier a donné plusieurs versions de son emploi du temps, il reconnaît aujourd'hui avoir accompagné son frère à la boutique où ils ont acheté un blouson de moto passe-partout et une cagoule, rien qui fonde non plus la complicité dont on l'accuse. Abdelkader Merah, qui a également reconnu sa présence lors du vol du scooter et qui ironise aujourd'hui, j'ai voulu être honnête avec la justice et ça m'a valu d'être incarcéré depuis plus de 5 ans. Le 11 mars, jour de la mort du militaire Mohamed Ibn Ziaten, il était sur le banc des remplaçants au stade de football des Isards et son entraîneur est formel, non, il n'a pas quitté le match, c'est sûr, parce qu'il n'a pas arrêté de me demander de rentrer sur le terrain.
Florence Turmeau, Palais de justice de Paris. Quand la mouvance contestataire s'en prend à un congrès de DRH. Une réunion de directeurs des ressources humaines des entreprises du CAC 40 se déroulait ce matin à Paris. Il avait été question que la ministre Muriel Pénicaud y participe. Cela avait incité des intellectuels et syndicalistes proches de la gauche radicale à organiser un rassemblement dans le bois de Boulogne. Des voitures ont été dégradées ou incendiées et la police a procédé à 41 interpellations pour jet de projectiles sur agents de la force publique, port d'armes prohibées et participation à un attroupement en étant porteur d'armes. 5 personnes ont ensuite été placées en garde à vue. Le temps sera nuageux demain dans la moitié nord de l'Hexagone avec des maximales de 16 à 21 degrés. Le soleil dominera dans le sud où il fera l'après-midi 19 à 24 degrés jusqu'à 28 dans l'arrière-pays méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.